Chers amis, bonsoir. Au micro, Sarah Brébard. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage, pour parler de la crise belge, qui dure depuis plus de 6 mois. À mes côtés, Jean Quatremer, correspondant de Libération auprès de l'Union européenne, et accessoirement de la Belgique, on peut dire, qui doit vous occuper pas mal.
Bonsoir.
Bonsoir. Olivier Willox, qui représente l'Union des entreprises de Belgique.
De Bruxelles.
De Bruxelles, voilà, bonsoir. Vivien Teitelbaum, qu'on ne présente plus à nos auditeurs, membre du collectif également, et député MR à la région bruxelloise.
Bonsoir.
Yaron Pechta, député écolo, qui n'est pas encore membre du collectif, on espère que ça arrivera bien un jour. Bonsoir. Et voilà, bonsoir à tous. Alors avant de donner la parole à nos invités, comme d'habitude, on va donner la personnalité du mois. Cette semaine, la journée des droits de l'homme a mis à l'honneur les 130 journalistes emprisonnés, dont 49 en Chine. On a eu beaucoup de mal à choisir, on a eu envie de fêter les 130. Puis finalement, on s'est quand même fixé sur une Iranienne qui s'appelle Jadveh Shafahari, qui est une prisonnière d'opinion. Militante des droits des femmes, elle a été arrêtée le 1er décembre 2007 au tribunal révolutionnaire de Téhéran, accusée de troubles à l'ordre public, de propagande contre le régime et de publication d'informations mensongères. En fait, Jadveh Shafahari participe activement à la campagne pour l'égalité qui vise à recueillir 1 million de signatures iraniennes sur une pétition demandant l'abrogation des dispositions légales discriminatoires envers les femmes. Jadveh Shafahari a milité toute l'année. Elle a fait partie des 33 femmes arrêtées le 4 mars 2007 alors qu'elle protestait contre le procès d'autres militants des droits de femmes. Elle a, à ce moment-là, été libérée. Et elle a à nouveau été appréhendée avec 25 autres personnes en septembre lors d'un atelier éducatif organisé dans le cadre de la campagne pour l'égalité. Voilà. Donc, on réclame sa libération. Voilà. Nous, ici, Dialogue et Partage, et on la soutiendra. Vous savez qu'on a donné souvent la parole aussi bien aux réfugiés iraniens qu'également aux sans-papiers iraniens. À l'ULB, il y a 2 ans, ils sont venus souvent au micro revendiquer qu'on s'occupe d'eux. Je pense qu'on continuera de toute façon à le faire. On est en relation avec le président de Persepolis, Anouar Mirsartari, avec d'autres membres de son comité pour aider les Iraniens qui souhaitent trouver refuge dans notre pays à se sentir bien. Au musée de Bruxelles, il y a une expo qui s'appelle Cumanidad, placée sous le patronage de l'ambassade de Cuba. On est quand même assez surpris, d'autant plus que cette semaine, 15 Cubains ont été arrêtés dans une église, à nouveau pour un délit d'expression à Cuba. On proteste vivement contre cette façon d'occulter une situation dramatique. On sait bien évidemment, Vivien Teitelbaum, que vous ne cautionnez pas, ni vous, Yaron Pechtat, vous êtes écolo.
Dans la majorité ixelloise. Hein.
Mais vous êtes écolo d'Ixelles quand même.
On n'est pas dans la majorité ixelloise, je rappelle.
Je sais, vous êtes à la section écolo, vous auriez quand même pu protester aussi. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je voudrais aussi signaler le Libé de mercredi, et notamment la page Grand Oncle, qui est très émouvante, puisqu'elle raconte, en fait, l'histoire d'un instituteur qui a caché une dizaine d'enfants juifs dans un village d'Eure-et-Loire, pour lequel se mobilisent ces enfants, devenus évidemment âgés, mais qui considèrent qu'il doit pouvoir être connu comme juste parmi les nations, suivant l'appellation consacrée de Yad Vashem. Le petit billet du jour, francophone, bruxelloise, wallonne, je cumule tous les défauts, parfois l'un ou l'autre, parfois l'un et l'autre, tous les autres. Mes identités sont multiples, je suis citoyenne du monde, j'arrive au monde chaque jour, je suis en perpétuelle ouverture aux autres, en attente inépuisable de l'autre, en don de moi et en quête de recevoir. Je suis amie, leur amie, je comprends leurs blessures, le contentieux gît là, dans un non-dit, mal-dit, médit, redit. Et pourtant, nous ne pouvons pas comprendre qu'ils nous envient encore. Malgré leur richesse, leur supériorité démographique, économique, politique, ils ne veulent pas admettre que c'est la beauté de la langue, notre langue, qui nous tient, et étranger à eux. La langue française est une patrie, ma patrie. Nous avons souvent, c'est vrai, pour le flamand, le néerlandais, un mépris méprisable. Notre chauvinisme francophile, quand c'en est un, ferme à notre compatriote néerlandais toute possibilité de dialogue avec nous. 75 ans après la première réforme institutionnelle, nous en sommes là, comme deux vieux époux qui vivent côte à côte sans se regarder, sans s'aimer, se supportant avec agacement. On vit dans des univers séparés et pourtant dans ce pays s'élèvent de plus en plus de voix pour clamer leur désir de continuer à vivre ensemble. C'est notamment le sens de la pétition « Sauvons la solidarité » qui a été remise aujourd'hui à Guy Verhofstadt, Premier ministre en exercice, en affaires courantes, ou Premier ministre en intérim, ou Premier ministre tout court, enfin bref, lui au moins a accepté de rester à ce poste, quand celui qui aurait dû l'occuper semble s'y refuser, ou bien, on va y revenir. La pétition a réuni 100 000 signatures, Et c'est un peu moins que la pétition Ouar, mais enfin, elle a été initiée par des syndicalistes et signée par des artistes, des intellectuels, des journalistes, portée par de nombreuses personnalités qui ont une grande visibilité. Saint Augustin disait « L'espoir a deux belles filles, la colère et le courage. La colère face à l'état des choses, le courage de les changer. » Alors, colère ou courage ? Jean Quatremer, vous comme journaliste.
Moi, je ne suis qu'un observateur, hein. Je ne peux pas prendre parti dans un tel conflit, je ne fais que le décrire, que l'analyser, que tirer des sonnettes d'alarme. Et parfois, j'ai remarqué que ça déplaisait énormément à la classe politique belge, parce que la classe politique belge a une façon très particulière de régler ses affaires entre elles, dans des compromis obscurs et incompréhensibles pour la plupart des gens, et ne supporte pas un regard extérieur. J'en ai eu la démonstration il y a quelque temps, puisque j'ai eu droit avec mon collègue du Monde, Jean-Pierre Straubens, à une convocation par Louis Michel, actuel commissaire chargé du développement, qui nous a fait venir dans son bureau, et ancien grand patron du MR, et qui se veut toujours les milices grises du MR, qui nous a convoqué pour nous expliquer il y a à peu près 3 mois qu'on ne comprenait strictement rien à la crise belge et qu'il n'y avait en tout cas pas de crise en Belgique. 3 mois après, j'avoue que je rigole en repensant à la leçon de politique belge qu'on nous a donnée, parce qu'évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, non seulement on l'avait prévu dès le 10 juin, mais on le dit depuis plusieurs années et dans le désert. C'est une surprise uniquement, je dirais, pour les Belges, et une surprise uniquement pour les Belges francophones qui refusent absolument de voir la réalité. Je me rappelle la première fois que je suis venu dans ce pays, c'était en 1992, et ça a été un grand choc, parce que comme tout Français qui vient en Belgique, on a un choc parce qu'on découvre que la majorité n'est pas francophone, mais est néerlandophone. Donc déjà, parce que on connaît absolument pas nos cousins du Nord, on connaît quelques bières, les chanteurs, les écrivains, etc., mais on ne connaît absolument pas la réalité démographique et économique de ce pays et politique de ce pays. Et j'avais été en périphérie, notamment je m'étais rendu là où il y a le magasin Ikea, c'était en Flandre. Et j'arrive à la caisse pour payer mes achats et la personne me parle en flamand. Alors moi, un petit peu surpris, je parle pas flamand, je n'ai pas compris qu'on parlait flamand en Flandre, donc je lui parle en anglais, elle me répond en anglais, et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais vous parlez vraiment pas français, elle continue à me parler en néerlandais, et au bout d'un moment, je dis, je suis français, je suis pas censé parler néerlandais. Et à ce moment-là, elle se met à me parler un français absolument parfait. Et alors là, j'ai eu un choc, je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'ai proposé à mon journal de faire un reportage à Overijs. Et je me suis fait passer pour un francophone voulant acheter une maison à Overijs. En 1992, hein, je rappelle. Et j'avais fait un reportage absolument hilarant, une pleine page dans Libé, où je montrais comment les gens, les flamands, refusaient de me parler français tant qu'ils ne savaient pas que j'étais français. À partir du moment où j'apparaissais comme français, à l'époque on me parlait encore. Aujourd'hui je suis même pas sûr qu'on me parlerait encore. Et là je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et là, l'autre surprise, et j'avais décrit ça à mes amis français qui n'en venaient pas, c'était les poteaux de signalisation. J'ai remarqué qu'à Bruxelles, ils étaient, bon, bah, comme tous les autres poteaux de signalisation, blancs et rouges pour qu'on les voit. Et en Flandre, ils étaient noirs et jaunes. Moi j'étais un peu surpris, je me dis, pourquoi ils sont noirs et jaunes? Et j'ai découvert que c'était les couleurs du drapeau flamand. Je veux dire, vous imaginez en France nos panneaux de signalisation bleu, blanc, rouge, en Allemagne aux couleurs nationales allemandes, en Angleterre et ainsi de suite. C'est inimaginable. Et alors là, une série de petits faits comme ça permettait de comprendre qu'il y avait un problème massif. Et lorsque j'en parlais aux hommes politiques belges, évidemment, ils me disaient, mais non, vous n'avez rien compris. D'abord, c'est très compliqué. Et puis ensuite, vous avez une vision simpliste. Et puis vous, une vision arrogante, parce que vous êtes français. Ben, aujourd'hui, je m'aperçois, 15 ans après, que tout ce qu'on avait dit à l'époque, là, se vérifie.
On va faire le tour de table. On va continuer. Olivier Willox.
Je ne sais pas s'il y a moyen d'en rigoler, mais je ne sais pas s'il y a d'ailleurs quelqu'un qui comprend quelque chose à tout ce débat. Je sais pas, moi j'ai encore rencontré personne, enfin, je crois avoir compris, mais j'ai rencontré personne qui était capable de m'expliquer les effets, je sais pas bien les effets du split de l'arrondissement de Bruxelles à Vilvoorde. Donc je sens qu'on se bat à la fois sur des trucs où on est dans une espèce de double poker menteur. On peut l'expliquer si ça intéresse quelqu'un, mais je suis pas sûr que pour l'audience ce soit très intéressant, en tout cas pour nos amis français. C'est parfois un peu du surréalisme belge. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une sensibilité. Ce qui est vrai, c'est que pour être à moitié d'origine flamande, il y a des choses que je comprends, c'est-à-dire que le sentiment des francophones qui considèrent que leur langue est supérieure au sentiment, je parle du sentiment des flamands, je n'ai pas dit que c'était un sentiment des flamands qu'on leur impose systématiquement le français, Il y a certes le traumatisme de la Première Guerre mondiale, mais enfin, ça devrait commencer tout doucement à s'atténuer un peu. Je dis ça à une Norversoise à côté de moi. Donc c'est vrai que c'était un peu gênant. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans la crise aujourd'hui? Dans l'ordre, c'est évidemment la crédibilité de notre pays. Parce qu'elle est à la fois le modèle que tout le monde regarde un peu. J'étais en ex-Yougoslavie il y a 10 jours. J'étais à quelques kilomètres du Kosovo. Et c'est vrai qu'on nous regarde en disant, attendez, si même vous, ça marche pas, qu'est-ce que ça va donner? Je veux dire que c'est vrai que c'est un drôle de sentiment.
D'ailleurs, vous parliez sur votre blog de la Belgique comme un cas un peu bosniaque, hein, Jean Cabrenaire.
Je parle depuis longtemps de Bosnie froide, parce qu'effectivement, heureusement, la Belgique n'est pas un pays violent, mais je pense qu'on peut faire effectivement cette comparaison.
On a peut-être de la chance que ce soit Flaou, c'est-à-dire un francophone qui...
Non, mais imaginez deux secondes si on avait une armée qui avait été communautarisée. Oui. Je pense que la situation ne serait pas du tout facile. C'est clair qu'on aurait... la police est évidemment fédérale, donc ça simplifie, mais c'est vrai que sinon c'est simple.
On va vous redonner la parole, Olivier Houlac. Je voudrais qu'on finisse le tour de table avant d'aborder les questions de fond.
Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ce que Jean Quatremer a dit, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une histoire. Et c'est vrai que moi je suis anversoise et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et déjà, moi j'étais scolarisée à l'école primaire en français, mais dès le secondaire, tout était en néerlandais. Et déjà à cette époque-là, donc moi je parle des années 60 et 70, quand vous vous adressiez à quelqu'un en Flandre, en français, on ne vous répondait pas. Et c'est progressivement, ça s'est installé, progressivement, ça s'est empiré, ou en tout cas développé, si on veut prendre un terme plus neutre. Et donc, ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et c'est vrai qu'il y avait au départ une histoire où les Flamands ont été humiliés, où les Flamands avaient des raisons de revendiquer, de s'insurger. Et on a cru que tout ça avait été dépassé parce qu'ils avaient obtenu toute une série de choses et que beaucoup d'avancées avaient été faites et que la Flandre s'était vraiment affirmée en tant que telle. Et en réalité, on est un petit peu, je pense, rattrapé par le passé. Et puis au niveau de la crise elle-même, je pense que Verhofstadt a pu pendant 8 ans, je dirais, un peu laisser tout ça sous le tapis, ce qui n'a pas résolu les choses. Il a fait des commissions, il a mis tout ça dans un bazar qui devait analyser, qui devait en discuter, etc. Mais ça n'a jamais abouti. Et finalement, quand il y a eu cette campagne électorale, la Flandre l'a axée essentiellement sur la question du séparatisme. Là, on l'a dit déjà souvent, Bruxelles, la Wallonie l'ont axé beaucoup plus sur l'aspect socio-économique. Et donc, le clash est arrivé. Bon, c'est un petit peu en raccourci parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que ça aboutit. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase de la présidente, de la nouvelle présidente du SPA, qui disait, on est face à Joël Milquet qui rêve d'une Belgique qui n'existe plus, et Bart De Wever rêve d'une Flandre qui ne sera jamais. Alors, voilà, et je pense que ça résume un petit peu aussi les positions des uns et des autres. Et je pense que la Belgique de papa, effectivement, il faut quelque part l'abandonner. Quand vous dites les francophones y croyaient encore, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, cette Belgique-là, eh bien, elle est dépassée. Maintenant, quelle forme ça doit prendre?
Merci Viviane. Alors, Yaron.
Alors, je vais endosser le mauvais rôle, si vous voulez bien, en défendant un petit peu le système politique belge. C'est vrai que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est évident, on y reviendra. Mais il faut peut-être rappeler que ce système a eu sa raison d'être. Il a permis de dépasser un certain nombre de crises que nous avons vécues dans les années 60, 70, 80, crises communautaires, crises régionales. Et nous avons pu, grâce à la complexité du système belge, maintenir une Belgique qui fonctionne dans la reconnaissance de ses nombreuses identités, qu'elles soient communautaires d'une part ou régionales d'autre part. Moi, je connais bien la région bruxelloise, c'est là que je travaille en tant que député. C'est vrai qu'une institution comme la COCOF, personne ne comprend ce que c'est. Je le reconnais volontiers, mais c'est une institution qui permet de prendre en compte dans les politiques communautaires les spécificités bruxelloises. Et les spécificités bruxelloises des politiques communautaires sociales, enseignement de la langue, elles sont évidentes et on ne traite pas les questions, par exemple, sociales ou d'enseignement de la même manière en région wallonne ou en région bruxelloise. Donc c'est pas inutile d'avoir des institutions proches des citoyens qui peuvent traiter de leurs problèmes dans leurs spécificités. C'est ça le sens de la complexité belge. Donc ça a un sens, faut pas l'oublier, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faut reconnaître aujourd'hui que ça marche pas et qu'il faut faire autre chose autrement.
je pense que ça vaut la peine en fait de faire un peu les rétroactes. Rappelons-nous qu'en 1999, le CVP, le PSC, et Jean Quatremer me corrigera hein, s'il n'est pas d'accord.
CVP. Je suis un spécialiste de l'histoire. J'ai impressionné. Remarquez-moi, je sais au moins à quoi correspond le 21 juillet et je connais l'hymne national.
Oui, voilà, c'est déjà mieux que
nos... donne déjà.
C'est déjà mieux que notre ex-premier ministre. Bon, futur ex. Alors, futur ex. Futur. Ou jamais ex. Hein. Ou jamais futur. Voilà, donc en 1999, le CVP et le PSC, c'est important de comprendre ça. Le CVP et le PSC, après 42 ans de pouvoir, valsent dans l'opposition. On a un gouvernement arc-en-ciel, libéraux, socialistes, écolos. Les chrétiens décident d'entreprendre une cure de rajeunissement qui va donner ceci. Chez les francophones, à l'issue d'un combat entre Nothomb et Milquet, dont Milquet sort gagnante, le PSC devient CDH et prend une coloration, on va dire, plus progressiste. Par contre, chez les Flamands, le CVP va devenir le CDNV et lui va se radicaliser, notamment sous l'influence et surtout sous l'influence du Vlaams Belang, dont les thèses nationalistes séduisent de plus en plus l'électorat et n'arrêtent pas de progresser, on le voit au fur et à mesure des élections. Ça va aboutir en 2001 à la cinquième réforme de l'État qu'on va appeler les accords de la Sainte-Polycarpe. Alors évidemment, c'est suite à une demande francophone, parce que les francophones n'arrivent pas à payer leur école, donc ils vont demander que l'État fédéral subventionne leur école francophone, normalement qui aurait dû être payée par la communauté, et les Flamands vont accepter, mais à condition d'un nouveau transfert des compétences du fédéral vers le régional. Ça va nécessiter, et c'est là que ça se corse, le vote des deux tiers, puisqu'on fait une réforme de l'État, donc deux tiers des députés et deux tiers des sénateurs doivent voter la réforme. Du coup, on fait appel à l'opposition, c'est-à-dire à la Vox Unie, qui va accepter et elle va faire payer ça au prix fort et, paradoxalement, elle va payer le prix fort. C'est-à-dire, le prix fort qu'elle va demander, c'est que le nombre d'élus flamands à la région bruxelloise va être nettement supérieur qu'à l'électorat flamand qu'il est censé représenter, mais elle va payer le prix fort. Bon, ça, c'est évidemment tout le paradoxe des électeurs qui sont jamais reconnaissants. N'est-ce pas? Et elle va payer le prix fort parce qu'elle va éclater en une aile droite et une aile gauche, c'est-à-dire d'une part la NVA et d'autre part Spirit. Et aussi d'autres vont rejoindre, d'autres partis, enfin d'autres membres de la Vox Unie vont rejoindre le VLD qui va devenir Open VLD et Groen. Bref, le nationalisme va gangréner tous les partis et va régner en maître sur la scène politique et médiatique. Le Vlaams Belang peut donc se frotter les mains, son programme est en partie réalisé, à savoir l'indépendance de la Flandre. Bon, en 2002... À nouveau, on procède à une réforme du système électoral, à savoir que toutes les circonscriptions épousent le tracé des provinces, sauf BHV. Alors, on va revenir après pourquoi, comment BHV va être à cheval à la fois sur la région flamande et à la fois sur la région bruxelloise. En 2004, les élections régionales vont donner comme majorité PS, CDH et Écolo à Bruxelles et à la région. Et le MR, exclu du pouvoir, se dit trahi. Surtout par le PS qui mène la danse, il faut bien le dire. Et ce sentiment de trahison va probablement nourrir une rancune tenace. En 2005, les scandales à répétition à Charleroi vont contribuer à donner du PS l'image d'un parti affairiste et d'une Wallonie mal gérée, ce qui va convaincre les électeurs flamands de couper les ponts. En 2006, donc, les revendications flamandes, à savoir la régionalisation accrue et la scission de BHV, vont amener les francophones en fait à rejeter ces revendications en clamant qu'ils ne sont pas demandeurs. Milquet clamera elle aussi qu'elle ne viendra dans aucun gouvernement qui vote la réforme de l'État. Bon, on verra bien ce qu'il en est demain, mais apparemment on est bien sur la voie qu'elle acceptera. Finalement, après avoir dit non pendant les 6 mois, probablement avec un agenda caché suite à un accord avec le PS, et les élections fédérales du 10 juin en 2007 vont donc élire du côté flamand le cartel CDNVA et du côté francophone, le MR va, disons, remporter les élections, va être le leader puisqu'il va faire 23 sièges alors que le PS lui va en perdre, on n'en fera plus que 20 et le CDH 10, je dis ma mémoire bonne. Et le MR va donc imposer une orange bleue 6 mois après. Où est-ce qu'on en est? Je ne sais pas si vous avez vu cette image circuler sur Internet d'une orange couleur orange qui en pourrissant devient bleue. Alors il semble bien qu'elle soit pourrie et quand elle est pourrie, on la jette. N'est-ce pas que Jean Quatremer?
Alors je voudrais, avant de revenir à ces questions de l'orange bleue, réagir au propos que je viens d'entendre autour de la table sur l'image pour la Belgique. Je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas l'image de la Belgique qui souffre. Là, c'est l'image de la Flandre. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'histoire, les bad guys dans l'histoire, les méchants, ce sont les Flamands, clairement. Et c'est comme ça qu'ils sont vus dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, aujourd'hui, à l'heure de l'Europe, veulent se renfermer entre eux, avoir des frontières entre eux, où il n'y aurait que des catholiques flamands parlant flamand. On s'éleverait entre flamands, on parle vraiment le bonheur du flamand. Voilà, c'est ça. Donc, quelque part, c'est eux les méchants. Donc, l'image de la Flandre mettra, à mon avis, très 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 longtemps, même en cas à terme d'indépendance, à se reconstruire. Deuxième chose, vous avez parlé de l'oppression dont ont été victimes les Flamands à travers le temps. Moi j'appelle ça les mythes flamands, les mythes et les grands malentendus. Un exemple sur les soldats flamands qui pendant la Première Guerre mondiale ne comprenaient pas les ordres de leurs officiers francophones. Il y a des études universitaires qui ont été faites et qui ont montré que c'est complètement faux. Il y a eu le même nombre en pourcentage de la population de morts flamands que de morts francophones. En plus, il faudrait me faire la démonstration qu'à l'époque, les Wallons parlaient bien le fameux français de leurs élites, parce que c'était des parlers Wallons et il y avait des parlers flamands. Et les élites, qu'elles soient flamandes ou francophones, parlaient le français de Paris. Et donc, personne ne comprenait très bien le langage des élites. Donc, je dirais que la revendication identitaire flamande s'est faite sur un grand malentendu, parce qu'en réalité, c'est une revendication sociale qu'on a transformée en une revendication linguistique et maintenant quasiment ethnique. Et ça me choque. Il faudrait peut-être qu'un jour, les hommes politiques flamands aient le courage de reconnaître que leurs revendications identitaires sont fondées sur des faits tout à fait trafiqués et historiquement non vérifiés. Sur le troisième point, la défense du système belge, sur le fédéralisme à la Belge, je ne conteste pas que le système ait son utilité et ses justifications historiques. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand on parle ici de fédéralisme évolutif. En réalité, ce n'est pas du fédéralisme évolutif qu'on a, c'est du fédéralisme involutif. C'est-à-dire, on va à chaque fois vers de plus en plus de fédéralisme et en fait vers de plus en plus de confédéralisme et à terme vers de l'évaporation. Donc, qu'il y ait des institutions complexes pour que tout le monde puisse vivre ensemble, ça ne me dérange pas. Vous savez, en France, regardez les niveaux d'administration entre la commune, le département, le canton, le département, la région et l'État, c'est d'une complexité. Personne ne sait en France comment ça fonctionne. Donc personne ne peut critiquer un système par rapport à un autre. Chacun sa justification historique. Mais en Belgique, c'est pas ça. En Belgique, c'est qu'un système n'est valable que pendant 5 ans. Hein, et puis ou 4 ans. Et les élections d'après, pof, ils changent encore. Et c'est de moins en moins, en réalité, d'État central. Donc il vaudrait peut-être mieux soit faire une réforme de l'État définitive, et ça, je n'y crois pas une seconde, soit reconnaître qu'effectivement, on va vers une séparation douce et qu'à terme, ce sera de l'évaporation de la Belgique. Et dernier point, sur le bad guy, parce que je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les bad guys et les good guys, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire qu'il y a les méchants flamands et les gentils francophones. Parce que vous avez très bien dit tout à l'heure que la réforme de l'État, elle ne s'est jamais faite contre les francophones. Les francophones l'ont demandé. Et les responsables historiques de la situation actuelle, ce sont les francophones qui ont refusé le bilinguisme généralisé en 1932. Je veux dire, c'est ça la réalité. Et qu'aujourd'hui, nos amis francophones qui sont là en train de se dire « mon Dieu, les flamands sont méchants », mais s'ils avaient accepté le bilinguisme, s'ils avaient accepté de parler cette langue de paysan qui était le flamand en 1932, aujourd'hui, on n'en serait pas dans cette situation-là.
On va terminer juste avant de passer un morceau de musique Benabar Bruxelles. Évidemment, ça s'impose. Je voudrais juste dire à Jean Quatremer que ce sont quand même les élites flamandes qui parlaient le français et qui refusaient le néerlandais. On me dit le néerlandais, pas le flamand. Voilà, Benabar, et puis on continue notre débat.
Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau. J'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux. Je le reconnais, mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux que de rien offrir du tout. Tu te serais contenté d'un cadeau, moi tape à l'œil, d'un livre ou d'un CD, d'une paire de boucles d'oreilles. Mais dans une bague ou un collier, je te mets au défi de faire rentrer sans les casser Saint-Josse et la gare du Midi. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut y dire à personne, ça menace à la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut. il a fallu que le roi s'en mêle. Il disait à court d'arguments, c'est ma capitale, bordel, et ce n'est pas un présent. J'ai dit, mon king, je vous arrête, Bruxelles est un joyau, nous sommes en période de fête, c'est idéal comme cadeau. Il s'entêtait dans son refus, je l'ai d'ailleurs trouvé têtu, et il disait, c'est pas à toi, et tu peux pas le faire comme ça. Bruxelles est tout bruxellois, c'est entendu, j'ai dit au roi, mais ils n'en sauront rien, ce sera notre secret, mon cher souverain. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne, et j'ai donné ma parole d'homme, qui vaut ce qu'elle vaut. Moi qui suis roturier, c'est mon seul titre de noblesse, je voudrais négocier.